L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 3. Deux amis d'enfance, Joseph Le Zurc, chez le juge, dénoncé. Premier interrogatoire, nous sommes innocents. Tiens, Le Zurc. Ah, bonjour, Guénaud. C'est ainsi que s'interpellaient cordialement deux hommes qui venaient de se croiser sur le pont Neuf. Tout en serrant cordialement la main de son ami, Le Zurc, un grand et solide gaillard au teint coloré, aux cheveux et sourcils blonds, aux yeux bleus, à la bouche petite et bien dessinée, les lèvres et le menton rasés, le nez assez long et mince, le menton rond, le visage épanoui de joie et de santé, s'écriait avec un accent de belle humeur « Déjà revenu de Château-Thierry ? »
« Il le faut bien, mon cher, » répliquait Guénaud. « Figure-toi que, quand j'étais chez Gaulier, un particulier a été arrêté chez eux comme inculpé dans l'assassinat du courrier de Lyon. »«
Ah oui ? Ce crime abominable dont tout le monde parle ?» On a saisi tout ce qui se trouvait chez Gaulier et chez notre ami Richard, qui a été arrêté lui aussi, ainsi que sa femme.
« Allons donc !»
On m'a pris mes papiers et le juge d'Aubenton que j'ai vu hier et qui m'a longuement interrogé m'a promis de les rendre ce matin. Je vais les chercher. Tu viens avec moi ? Je te raconterai tout cela en route. « Impossible ! Il faut que je me rende rue Montmartre, où je fais remettre à neuf l'appartement où je dois habiter prochainement avec ma famille.
« Mais, » insistait Guénaud, « je peux avoir besoin d'un témoin pour certifier mon identité. »«
Je t'assure que je ne peux pas. » Passant son bras sous celui de son ami, le préposé au transport militaire l'entraînait tout en disant « Viens donc, ça ne te retardera pas beaucoup et tu me rendras un grand service. »
Le Zurc, bon garçon, se laissa faire.
S'il s'était douté des effroyables conséquences qu'allait avoir pour lui ce simple geste de camaraderie, sans doute se fût-il montré moins facile à convaincre. Mais n'anticipons pas sur les événements, et, avant d'en suivre le cours, présentons à nos lecteurs et à nos lectrices ce nouveau personnage qui va jouer dans cette histoire un rôle qui devait perpétuer à jamais son nom dans les annales des grandes causes judiciaires. Joseph Le Zurc, compatriote et ami d'enfance de Guénaud, était né à Douai la même année que lui, c'est-à-dire en 1768. Ses parents étaient d'honorables artisans. Très jeune, il s'était engagé dans le régiment d'Auvergne où il s'était fort bien conduit. Sachant très bien qu'il ne pourrait pas dépasser le grade de sergent, il quittait l'armée en 1780 et, désireux de s'assurer une carrière plus brillante, il entrait comme simple employé au bureau du district de sa ville natale. Grâce à son activité et à son intelligence, il en devenait rapidement le chef. Il se mariait alors à une femme charmante, très douce, très bonne, qui lui donnait trois beaux enfants. Entre-temps, s'étant lancé dans les spéculations d'achat et de revente des biens d'émigrés et du clergé, dits « biens nationaux », il avait acquis promptement un capital dont les intérêts formaient environ 10 000 livres de rente, ce qui pour l'époque constituait une véritable fortune. Sans être le moindrement débauché, Le Zurc aimait la vie large et joyeuse. Doué d'une certaine instruction et d'un goût naturel pour les belles choses, il prisait fort les lettres et les arts, et il avait toujours été tourmenté par le désir de se fixer à Paris, où il pourrait donner libre cours à ses idées et à ses appétits, et où aussi, désir très louable, il serait mieux à même que partout ailleurs de procurer à ses enfants une éducation plus complète. Dès qu'il se sentit sûr de ses ressources matérielles et en possession d'une large aisance solidement établie, au commencement de l'année 1795, il quittait Douai, où il laissait provisoirement sa famille, et arrivait à Paris. Tout de suite, il se mettait en quête d'un appartement dans lequel il pourrait s'installer confortablement et même luxueusement avec les siens. Sans doute, à cette époque tourmentée, Y avait-il déjà une crise de logement? Ou le Zurk se montrait-il très difficile? Ou bien encore, désirant jeter sa gourme et mener dans la capitale, pendant un certain temps, cette vie de garçon qu'il n'avait pas connue, faute d'occasion et de numéraire, toujours est-il que ce ne fut qu'après plusieurs semaines qu'il se décida à louer un appartement au numéro 25 de la rue Montmartre, dans une maison appartenant au citoyen Maumeux, notaire. Mais l'appartement avait besoin d'importantes réparations. Le Zurk s'aboucha avec les différents corps de métier du bâtiment. Il faut croire qu'en 1795, les entrepreneurs n'étaient guère plus pressés que de nos jours pour exécuter les travaux qu'on leur commandait, car, à ce jour, ainsi que nous venons de le voir, les ouvriers travaillaient encore rue Montmartre et le Zurk demeurait toujours chez un de ses cousins, André le Zurk, tailleur, au 38 de la rue Montorgueil. D'un caractère agréable, d'une bonne humeur qui semblait inaltérable et d'une certaine culture qui rendait sa conversation fort plaisante, le Zurk n'avait pas tardé à se créer de nombreux amis, parmi lesquels deux peintres de talent, les citoyens Hilaire le Dru et Baudard, ainsi que le citoyen Legrand, originaire lui aussi de Douai et bijoutier orfèvre au Palais Royal. Depuis la Révolution, maison égalité. Tout en surveillant les travaux qui s'effectuaient si lentement à son futur domicile, le Zurk menait la vie qu'il avait si longtemps rêvée, c'est-à-dire facile et joyeuse. Il fréquentait les bars, les restaurants, les établissements à la mode, tels que les cafés de Chartres et de la Régence. Il avait même une petite amie, une lingère de 20 ans, nommée Eugénie d'Argence, qui demeurait rue Saint-Honoré, et avec laquelle, fréquemment, il soupait et passait la soirée, liaison d'ailleurs sans grande importance. N'empêche que toutes ces fantaisies, jointes aux frais que lui coûtait l'aménagement de son futur loyer et l'entretien de sa famille, finissaient par lui revenir fort cher, et qu'il avait dû envisager la nécessité d'augmenter ses revenus. Un instant, il avait été tenté de se livrer au trafic sur les valeurs métalliques et marchandes de toutes sortes, qui, sous le nom d'agiotage, faisaient alors fureur. Mais il était trop avisé pour ne pas se rendre compte combien, par suite de l'inflation et de la dépréciation des assignats, papier-monnaie, dont la valeur était basée sur les biens nationaux, cette façon de procéder présentait des dangers. Il préféra s'adonner de nouveau à la spéculation. Mais les conditions n'étaient plus les mêmes. D'abord, le système du pot de vin, qui sévissait déjà lorsque le Zurk s'était livré à ses premières opérations, n'avait fait que s'étendre. Les intermédiaires, de plus en plus nombreux et gourmands, exigeaient des commissions, voire des avances plus considérables. Si habile fut-il, le Zurk fut obligé de se découvrir de sommes importantes. Et si la fortune ne lui était pas toujours défavorable, il lui arrivait parfois d'éprouver certaines déconvenues qui n'étaient point sans altérer sa souriante bonne humeur. Malgré tout, son caractère optimiste reprenait le dessus, et il lui suffisait d'aller voir ses amis, de faire un tour sur les galeries de Maison Égalité, alors si animée, si grouillante, pour que ses idées noires s'envolassent aussitôt. C'est là qu'un jour, sortant du café de Chartres, qui se trouvait non loin de la boutique du bijoutier Legrand, que le Zurk s'était trouvé nez à nez avec son ami Guénaud, venu, comme on le sait, à Paris, au sujet de ces 3 caisses d'argenterie qu'on lui avait volées. Tous deux furent ravis de se rencontrer, car ils avaient conservé intacts les liens d'amitié qui les unissaient depuis leur plus jeune âge. Le même soir, Guénaud emmenait le Zurk dîner chez leurs compatriotes Richard et sa femme et leur rendait leur politesse en les invitant à leur tour à déjeuner chez son cousin de la rue Montorgueil. Quelques jours après, chez les Richard, nouveau repas. Mais ce jour-là, il y avait d'autres invités. D'abord, Un homme en habit bleu, à boutons blancs, bordé d'acier, laissant apercevoir un gilet d'étoffe des Indes à raies, tombant sur un pantalon en peau de daim pris dans des bottes molles et le cou entouré d'une énorme cravate de soie brune. C'était Couriole. Puis une jeune femme, en redingote doublée de taffetas rose, aux collerettes dites frisons et outrageusement fardées. C'était Madeleine Brébant. Enfin, le citoyen Gaulier, le collègue de Guénaud, que celui-ci avait mis également en rapport avec son ami Richard. Pendant tout le repas, Couriole, que les maîtres de la maison avaient présenté aux autres invités, avec Madeleine Brébant, comme le citoyen et la citoyenne Étienne, de bons amis, se montra étourdissant de verve méridionale. Ce fut alors que le brave citoyen Gaulier, conquis par lui et enchanté de rencontrer dans Guénaud le plus aimable des collègues, les invita tous deux à descendre chez lui lorsqu'il passerait par Château-Thierry. On sait comment les choses devaient tourner pour le trop confiant Gaulier, dont le juge d'Aubenton avait promptement deviné l'entière bonne foi et la parfaite innocence. On peut donc juger si le récit de Guénaud avait intéressé le Zurk. « Quelle affaire !» s'écriait ce dernier, lorsqu'en chemin Guénaud eut fini de lui conter dans tous ses détails cette extraordinaire et pourtant si véridique aventure. « Jamais je n'aurais cru que ce citoyen Étienne, ou plutôt, comment m'as-tu dit déjà ? Ce Couriole. Eh bien, oui, ce Couriole fut un bandit de grand chemin. » C'est en devisant de la sorte qu'il pénétrait dans l'antichambre de Daubenton, où se trouvaient déjà réunis les témoins de Montgeron et de Lieu Saint, que le juge avait convoqués la veille. Sans s'occuper le moindrement de ces paysans endimanchés qui l'y regardaient avec une certaine curiosité, ils s'installèrent sur un banc et s'entretinrent à haute voix de l'affaire du courrier de Lyon, de Couriole, de Madeleine Brébant, de Richard, etc., etc. Deux femmes qui les écoutaient depuis un certain temps, les dévisageant avec attention, se mirent à parler à voix basse. C'étaient les deux servantes d'auberge, la grosse tête et la senton. Et lorsqu'elles pénétrèrent à leur tour dans le cabinet du juge, toutes pâles, toutes tremblantes, elles adressèrent un dernier regard angoissé vers le Zurk et Guénaud, qui continuaient à deviser sans avoir remarqué un seul instant l'étrange impression qu'ils avaient produite sur elle. Aussi, quelle ne fut pas leur surprise, lorsqu'au bout d'un quart d'heure environ, l'officier de police judiciaire Eudon, que nous avons déjà vu opérer avec tant d'habileté, sortait du bureau du magistrat enquêteur et, après avoir considéré attentivement les deux amis, s'approchant de Guénaud, lui dit d'un ton sec. « Le citoyen juge vous demande, ainsi que le citoyen qui vous accompagne. »«
Moi ?» s'étonnait le Zurk.
« Oui, vous. » Étonnés, les deux compagnons parurent auprès du magistrat. La grosse tête et la senton, l'air toujours effaré, se tenaient dans un coin de la pièce. Tout de suite, Daubenton faisait placer les deux amis près de la fenêtre, en pleine lumière. Puis, il leur disait.
« Restez là un instant. Tournez un peu la tête et regardez-moi bien.
Guénaud, faites quelques pas vers mon bureau.
Bien.
Et vous, l'autre, marchez aussi vers moi. »
De plus en plus ahuris, les deux compagnons se regardaient, se demandant ce que cela voulait dire. Daubenton, d'un ton sévère, ordonnait à l'inspecteur Eudon de les faire passer tous les deux dans une petite pièce qui communiquait directement avec son cabinet, en attendant qu'il les convoquât de nouveau. Resté seul avec les deux femmes, Daubenton leur demandait
« Croyez-vous encore, ainsi que vous me l'avez affirmé tout à l'heure, que ces hommes soient deux des assassins du courrier de Lyon ?»«
Oui, citoyen juge, répliquait la fille grosse tête avec une conviction absolue.
Ce sont là deux des quatre cavaliers qui ont dîné chez la citoyenne Évrard.
et la sentant d'ajouter « Et qui ont bu le café chez la citoyenne Châtelain ?»«
Faites bien attention à ce que vous dites, » reprit le juge. « De ces deux hommes, l'un a été soupçonné, et rien ne le forçait, s'il était coupable, à revenir ici. L'autre, le blond, n'a jamais été mis en cause, et sa présence ici serait encore plus inexplicable.
Les scélérats ne viennent pas ordinairement au bureau de police après avoir commis un crime. »
Ces paroles ne parurent nullement influencer les deux filles d'auberge, car simultanément et avec une énergie impressionnante, elles affirmèrent « ce sont eux, nous en sommes sûrs !»«
Surtout le grand blond !»
fit la grosse tête avec force. Le grand blond, c'était le Zurk. Daubenton fit sortir les deux femmes, non sans leur avoir ordonné de rester à sa disposition, et il se fit apporter le signalement des bandits recueillis par les gendarmes de Lieusaint et de Melun. Deux de ces signalements paraissaient se rapporter à Guénot et à Le Zurk. Ce dernier, surtout, semblait bien devoir être le grand blond dont parlaient tous les témoins. Le cas était des plus troublants. Le magistrat décida de l'élucider au plus vite en procédant successivement à l'interrogatoire des deux amis. Il commença par Guénot. Celui-ci semblait au comble de la stupeur. En effet, l'officier de police Eudon, qui était resté près de lui, ainsi que de Le Zurk, s'était refusé de répondre aux questions que tous deux lui posaient. Aussi, le préposé au transport, avant que Daubenton lui adressât la moindre question, attaquait-il.
« Citoyen juge, comme vous m'y aviez convié, j'étais venu chercher les pièces. »
Mais brusquement, Daubenton l'interrompait.
« Il s'agit bien de cela !»
Et tout de suite, il réclamait avec rudesse.
« Vos noms, prénoms, âge, profession, domicile !»
Bouleversé, Guénot répliquait.
« Je me nomme Charles Guénot. Je suis né à Douai, dans le Nord. J'ai 32 ans. Je suis préposé au transport militaire de Douai à Cambrai. Je me trouve à Paris depuis 2 mois, ainsi que je vous l'ai dit hier, où je recherche 3 caisses d'argenterie.
Où avez-vous logé pendant ce temps ?
Chez le sieur Richard, bijoutier, 87, rue de la Bûcherie.
Ne fait-il pas votre commerce ?
Je sais qu'il achète parfois des soieries.
Ne va-t-il pas aux foires ?
Je l'ignore.
N'a-t-il pas fait un voyage au commencement de ce mois ?
Je ne puis pas vous le dire, car j'étais à Château-Thierry, où j'étais allé voir mon collègue, le citoyen Gaulier.
À brûle-pourpoint, Daubenton lançait.
« Connaissez-vous Couriole ?»
Sans la moindre phrase d'émotion, spontanément, en homme qui est décidé à dire toute la vérité, Guénot répliquait.
« Je l'ai vu pour la première fois le 10 au soir, chez le citoyen Richard.
« N'est-ce pas à Château-Thierry ?»
poursuivait le juge. « Que Couriole a été arrêté ?»«
Oui, chez le citoyen Gaulier. »«
Il le connaissait ?»«
Comme moi, pour s'être trouvé avec lui chez le citoyen Richard. »«
Y a-t-il longtemps que vous connaissez le citoyen Gaulier ?»«
Je le connaissais par correspondance, mais je ne l'avais jamais vu avant d'aller à Château-Thierry. »«
N'êtes-vous pas allé dans le pays avec Richard, ainsi que Couriole ?»«
Non, citoyen. »
« Étiez-vous à cheval lors de votre dernier voyage à Château-Thierry ?»«
Non, j'étais en voiture. »«
Ne vous êtes-vous pas absenté de Paris vers le 7 ou le 8 de ce mois avec le citoyen Couriole ?»«
Non, citoyen, je n'ai été que jusqu'à la Villette prendre des informations relativement à mon vol. »«
N'avez-vous pas été le 8 à Montgeron avec Couriole ?»
Je ne suis jamais sorti de Paris avec lui.
Avez-vous été à Melun ?
Jamais, citoyen.
Vous n'êtes pas venu seul ici. Quelqu'un vous accompagne ?
Oui, citoyen. Un de mes amis, pour répondre de moi, si c'est nécessaire.
Comment s'appelle cet individu ?
Le Zurk.
Comment connaissez-vous ce Zurk ?
Nous sommes du même pays. Nous avons été élevés ensemble.
« Je le vois souvent. »«
Que fait ce citoyen ?»«
Il gère sa fortune. »«
Quelle fortune ? »« des domaines nationaux qu'il a achetés depuis 3 ou 4 ans.
C'est bien.
Daubenton, après avoir fait signer à Guénot son interrogatoire, donna l'ordre de le faire sortir et de le garder à vue. Puis, il fit revenir le Surc. Tout en marquant son étonnement de ce qui lui arrivait, ce dernier, après avoir décliné sur l'invite du juge ses noms, prénoms, dates de naissance, profession et domicile, hasardait.
« Je désirerais savoir, citoyen juge. »
Mais d'un geste autoritaire, l'enquêteur l'interrompait, puis scandait d'un ton sévère.
« Connaissez-vous le citoyen Guénot ?»«
Oui, j'ai été élevé avec lui. »
« Y a-t-il longtemps qu'il est à Paris ?»«
Je l'ignore.
Je l'ai rencontré sur la fin du mois dernier au Palais Égalité. »«
Avez-vous fait un voyage aux environs de Paris avec le citoyen Guénot ?»«
Je ne suis pas sorti de Paris depuis que j'y suis. »«
C'est-à-dire, depuis combien de temps ?»«
Depuis 1 an. »«
Le 8 de ce mois, vous ne vous êtes pas trouvé avec Guénot ?»«
Non, citoyen juge. »«
Quelle était votre fortune ?» Avant de venir à Paris,
après avoir été chef du district à Douai, j'ai acquis différents biens nationaux que j'ai revendus en partie, et ce qui me reste suffit à mon existence.
Connaissiez-vous Richard ?
Pas avant que Guénot m'eût emmené dîner chez lui.
L'avez-vous revu depuis ?
2 autres fois. La première, chez un de mes parents où je l'avais prié de venir dîner avec sa femme.
La seconde fois, chez lui, où il m'avait réinvité.
Ce jour-là, n'y avait-il que vous et le citoyen Guénot ?
Il y avait aussi un particulier qui se faisait appeler Étienne et une femme, dont je ne me rappelle plus le nom et qui se donnait pour son épouse. Cet Étienne avait l'accent provençal. C'est tout ce que je puis me rappeler.
À quelle époque a eu lieu ce repas ?
Quelques jours avant que Guénot ne partît pour Château-Thierry.
Il y a combien de temps de cela ?
10 jours environ. Connaissez-vous la profession de Richard ?
Je crois me souvenir qu'autrefois, il avait été bijoutier,
et je pense qu'il a dû suivre le même commerce.
Mais je ne puis rien vous affirmer.
Veuillez signer ces déclarations. Tandis que le Surc, de plus en plus étonné, s'exécutait avec la meilleure grâce, Daubenton murmurait quelques paroles à l'oreille de son greffier. Celui-ci s'en fut aussitôt ouvrir la porte qui communiquait avec la petite pièce où Guénot avait été enfermé, et il ramenait aussitôt le préposé au transport dans le cabinet du juge. Celui-ci, tout en les dévisageant tour à tour, leur disait
« Citoyens, je me vois obligé de vous mettre en état d'arrestation tous les deux. »
Guénot s'écriait.
« Je n'ai rien fait !»«
Que me reproche-t-on ? » interrogea le Surc.
« Vous devez le savoir, » ajouta Daubenton.
Et, s'adressant à l'inspecteur Eudon, Daubenton s'écriait.
« Qu'on les fouille !»
Consternés, Guénot et le Surc laissèrent Eudon et un autre inspecteur explorer leurs poches. On trouva sur le Surc une montre en or, une bague composée de 13 anneaux, une autre, dite collier de chien, et enfin, dans son portefeuille, une carte de sûreté de la section du Bon Conseil au nom d'André Le Surc, né à Douai, âgé de 33 ans, demeurant rue Montorgueil, 388, à Paris, depuis 6 ans, et une en blanc.
« Que signifie cela ? » interrogea Daubenton.
« Vous m'avez dit vous appeler Joseph. » Avoir 32 ans, vous faites donc des farces ?
Citoyen, répliqua le Surc,
c'est la carte de mon cousin qu'il a laissée chez moi. L'autre provient de papiers qui m'ont été vendus. Je ne sais vraiment comment elle se trouve sur moi. D'ailleurs, je n'en aurais jamais fait aucun usage.
Pourquoi ?
Questionnait âprement le juge. Depuis 11 mois que vous habitez Paris, « ne vous êtes-vous pas encore muni d'une carte de sûreté et n'êtes-vous porteur d'aucun papier assurant ou indiquant votre existence civile et politique ?» Le Surc, qui, en face du danger, s'était presque entièrement ressaisi, ripostait.
« Je n'ai pas pris de carte de sûreté parce que,
rentrant de très bonne heure chaque soir, je n'ai pas cru nécessaire d'en avoir. Je reconnais que je suis coupable d'une négligence. Quant à mes papiers, je les ai laissés à Douai, chez mon receveur. C'est la raison pour laquelle je n'en ai pas sur moi. » Sur Guénot, on ne trouva qu'un seul document intéressant, c'est-à-dire une note de 5 chevaux. Le préposé au transport expliqua que ces 5 chevaux étaient ceux qui étaient en fourrière à l'auberge du Coquardi à La Chapelle et appartenaient au voiturier qui avait disparu avec ses 3 caisses d'argenterie. Décidant de ne pas pousser plus loin son interrogatoire, Daubenton ordonnait que Lesurc et Guénot fussent immédiatement écroués à la chambre d'arrêt du bureau central. De nouveau, les 2 amis éclataient en protestations indignées. « Mais de quoi nous accuse-t-on ? Mais c'est affreux, abominable ! Citoyen juge, écoutez-nous !» Alors, se dressant de toute la hauteur de sa taille, Daubenton s'écria sur le ton tranchant d'un justicier implacable « Les 2 femmes que vous venez de voir tout à l'heure dans ce cabinet vous ont reconnu comme étant 2 des cavaliers qui ont attaqué la malle-poste et ont assassiné le courrier de Lyon. Vos 2 signalements correspondent exactement à ceux de 2 de ces misérables, et les charges découlant de l'interrogatoire que je vous ai fait subir à l'un et à l'autre m'imposent le devoir de vous garder à ma disposition. Allez !» Il n'y avait pas à discuter, et Lesurc, brisé de douleur et d'épouvante, tandis que les gens de police l'entraînaient avec son ami, ne put que crier à celui-ci : « Ah, Guénot, pourquoi m'as-tu amené ici ?